des émissions de la radio et de KTO. Contactez le 01 78 91 92 00.
Radio Notre-Dame, la vie prend un sens.
Dans la nuit. Chantal Bally, bonsoir à tous, bienvenue et merci de partager cette soirée avec nous. Pour nous rejoindre et entrer dans le dialogue, le téléphone 01 56 56 44 00. Notre invité ce soir est Pascal Parinet, psychanalyste, gestalt-thérapeute et formateur en relations humaines au sein de l'Institut de formation psychrétien. Avec Marie-Laurence, son épouse, il propose, à travers des parcours qui sont adaptés aux situations diverses de chacun, une aide thérapeutique qui permet de se réconcilier avec soi-même dans toutes les dimensions de son humanité. Et avec les autres aussi, et cela dans la perspective d'être plus disponible à l'accueil de l'action de Dieu dans notre vie. Pascal Parinet, bonsoir.
Bonsoir Chantal, bonsoir à tous les auditeurs.
Alors, notre sujet de réflexion et de partage ce soir, la place du pardon en psychothérapie. Vaste programme, parce qu'on sait combien le pardon occupe une place déterminante, libératrice dans la vie de chacun.
Voilà, oui, qu'on soit croyant ou pas d'ailleurs, oui. C'est indispensable à la vie en société, sinon on reste dans les conflits, dans l'amertume. Voilà, il y a même des mouvements maintenant de pardon nationaux.
Oui, oui, oui.
Alors, pardon, réconciliation, enfin, on voit que...
En tout cas, le conflit, amertume, c'est signe qu'il y a pas, qu'il y a un pardon à donner qui n'est pas été
voilà.
Donné.
Voilà, oui. Oui.
Alors, on va voir tout ça. Hein. Alors, ben, oui.
Ben oui, parce que tant qu'une personne n'a pas pardonné, ben elle vit soit alors dans le ressentiment, dans l'amertume, dans le désir de vengeance, parfois même dans la haine.
Ça peut aller jusque-là.
Ça
oui,
peut
oui.
aller jusque-là. Mais du coup, elle est empoisonnée elle-même par... par ses sentiments qui la rongent, qui lui donnent un mal-être, enfin, oui. qui génèrent du mal-être.
Oui, oui, oui. Mais c'est peut-être pas si simple quand même. Alors, c'est vite dit, le pardon.
Voilà, le pardon, c'est pas simple. D'abord, ça nécessite d'accepter ce qui a été vécu et puis aussi de prendre en compte l'autre. Quand on a du mal à pardonner, c'est souvent ou qu'on n'accepte pas.
Voilà, on n'accepte pas ce qu'on a vécu,
le vécu
de ce qu'on a fait,
la
ce qu'on
souffrance
a vu,
que ça nous a fait.
Oui, on n'accepte pas.
On n'accepte pas cette souffrance. Alors, à la fois, c'est pas agréable. Hein,
non, ça c'est sûr.
Ça se comprend. Mais aussi, il y a l'autre versant, c'est on n'accepte pas l'autre dans son humanité. Hein, quelque part, souvent, on idéalise un peu, on voudrait que tout le monde soit beau et gentil. mais c'est pas la réalité.
Non.
Et du coup, il y a à descendre l'autre de l'idéal qu'on s'est forgé sur le monde, sur les autres. Voilà, pour accepter, oui, il est humain, quoi. Mmh.
Voilà, il est humain, et donc nous sommes tous, et nous avons tous besoin d'être pardonnés, de pardonner.
Oui.
Alors, ça fait partie de notre commune humanité. Hein.
Ça fait partie de l'humanité, et puis, c'est quelque chose qu'on fait, alors qu'on peut faire parfois facilement. Parfois, ça se bloque, et là, il y a nécessité de faire un travail sur soi, voire une psychothérapie. Et puis, il y a des pardons qui vont être extrêmement longs à donner parce qu'il y a eu des blessures très profondes ou qui atteignent vraiment l'identité de la personne. Et à ce moment-là, il faudra du temps aussi, il faudra du temps.
Parce qu'il faut descendre profondément dans les couches profondes.
Voilà.
Alors donc, on va voir ce soir, évidemment, la place que peut avoir le pardon en psychothérapie, parce que c'est le pardon, surtout quand on est dans le milieu religieux, pense au pardon.
Oui, alors c'est vrai que dans le milieu religieux, particulièrement chrétien, c'est presque une culture, le pardon. Ça fait partie de la vie quotidienne, dans le sens où un chrétien va tout de suite penser, se poser la question du pardon.
77 fois, 7 fois.
Voilà.
C'est ça. Hein. Donc, ouais. On a ce ça nous est donné dans l'évangile par Jésus lui-même, le pardon. Donc, ça fait partie de la culture.
Ça fait partie de la culture.
Donc, oui.
En psychothérapie, on en parle peu, on le nomme peu. Mais on va voir pourquoi. On ne dit pas autant un chrétien, il va dire, il faut pardonner. Autant en psychothérapie, d'abord, on n'est pas dans le « il faut ». Donc, du coup, ça évite de dire ce genre de formulation. Mais on va peu parler du pardon parce que on pourrait dire qu'il est intégré dans le processus de thérapie et que du coup, il se fait naturellement sans qu'on ait à le nommer. Et puis, alors, de temps en temps, il y a besoin, de le dire. Mais généralement, ça se fait au travers du processus de thérapie.
Alors, on va voir tout cela ce soir. Hein. Donc, ce processus de psychothérapie. On va se poser aussi
la question du sens, du sens du pardon.
Alors, justement, pourquoi pardonner ?
À la fois, je crois qu'on a tous cette conscience en nous de l'importance du pardon, que c'est indispensable. À la fois de pardonner aux autres, mais aussi d'aller demander pardon quand on a blessé quelqu'un. L'éducation religieuse y participe, mais je pense que c'est quelque chose que tout le monde a conscience.
Oui, une sorte de réparation.
En tout cas, d'effacer l'éponge.
C'est ça.
Mettre un coup d'éponge pour effacer la note. Pas forcément de réparer d'ailleurs, oui. quand on a pardonné, on efface, oui. et on remet les comptes à zéro.
Oui.
Et ça, c'est quelque chose que on l'a tous en nous, on est tous conscients de ça. Mais en même temps, s'il y a eu pardon, ça veut dire qu'il y a eu offense, et donc on a été blessé par quelqu'un qui nous a fait du mal. Et ce mal, il va nous lier à la personne, mais il va nous lier dans quelque chose de négatif. Je disais le ressentiment, l'amertume, la haine. Et tant qu'on n'a pas pardonné, finalement, on pense à cette personne avec plutôt des mauvaises pensées. qui viennent nous polluer notre vie, qui viennent d'abord nous occuper l'esprit, Pour certains, ça devient même des obsessions. Mais en tout cas, ça vient nous empêcher de vivre pleinement une vie heureuse et, ou ne serait-ce que détendue, quoi.
Bien sûr. C'est, voilà, c'est, et donc, bah oui, dans ce refus de pardonner, il y a un engrenage.
Il y a un engrenage, qui fait entrer d'abord dans le ressentiment ou dans la haine. Et ce ressentiment va encore moins donner l'envie de pardonner. Donc finalement, plus on s'y prend assez vite, plus ça va être facile. Plus on le refuse et plus on alimente en quelque sorte le ressentiment et les mauvaises pensées qui vont réalimenter le refus de pardonner. Et on est vraiment dans une boucle qui au final... fait du mal aux deux, parce que la personne qui refuse de pardonner est tout aussi malheureuse que l'autre qui peut-être se sent coupable, parfois même pas du tout. Donc ça arrive même que le refus de pardonner, finalement, il fasse du mal qu'à la personne qui refuse
de pardonner. Oui. Mais parce que il peut y avoir quelque chose de réel, mais est-ce qu'il y a toujours quelque chose de réel de...
Pas toujours.
Pas toujours. Alors on va
pas
voir.
Toujours.
On va ouais. voir ça. Pas toujours. À quoi ça tient? À quoi ça tient? Parce que si il y a vraiment quelque chose, quand on a fait, il y a quelque chose qui s'est passé.
Alors il y a quand même un déclencheur, on pourrait dire.
Oui.
Donc dans ce sens, il y a quelque chose. Il y a quand même quelque chose de réel qui a déclenché cette blessure.
Mmh. Mais ça peut être inconscient.
Alors, mais dans ce que peut dire une personne, par exemple, sans doute quelqu'un d'autre, ça ne l'aurait pas blessé.
D'accord, oui.
Voilà, et du coup, ça veut dire que tout ce ressentiment, il trouve une origine ailleurs.
D'accord. Mais dans la personne qui est blessée, qui refuse de pardonner ou...
Oui,
à l'intérieur. Ah oui, oui, oui. Mais l'autre est un déclencheur malgré lui, peut-être, non ?
Voilà. Alors, parfois, il y a réellement une blessure, une offense. Enfin, ça arrive quand même que quelqu'un fasse du mal à quelqu'un d'autre.
Bien sûr, ça, bien sûr.
Voilà, volontairement. Parfois, c'est involontaire. Et puis, parfois, non, il n'y a personne qui fait du mal, mais l'individu va vivre comme...
Lui, il va le vivre intérieurement.
Comme si on lui avait fait du mal. Voilà, c'est...
C'est un problème en lui, finalement, la personne. Oui.
C'est un problème à l'intérieur de la personne, mais qu'elle va vivre comme une réalité.
Oui. Mais peut-être que l'autre, qui est le déclencheur... va pouvoir peut-être aider cette personne à une prise de conscience.
Ça arrive quand il y a des mots, quand il y a un dialogue. Le problème, souvent, c'est que la personne, si elle refuse de pardonner, elle coupe le dialogue.
Ah oui.
Mais si la personne reste dans le dialogue, à ce moment-là, elle va pouvoir aller s'expliquer... avec l'autre, qui va lui dire alors quand c'est pas fondé, ben non, j'ai pas du tout voulu dire ça, ou je suis désolé.
Oui, on clarifie les choses. Et donc là, ça peut délier quelque chose.
Ça peut délier assez rapidement. Oui.
Mais ça se passe pas toujours comme ça. Alors, donc, on va voir avant. Alors, il y a un avant, un après hein, dans cette situation. Avant l'offense,
voilà, avant l'offense, la personne vit sa vie, elle est tranquille, elle se sent bien. Après, en tout cas tant qu'elle n'a pas pardonné, elle va être dans l'émotion, dans l'affectivité, dans des pensées de vengeance, et dans le mal-être, finalement.
Alors, et donc le pardon va... permettre de retrouver alors l'état antérieur et peut-être même au-delà, parce que ça peut faire cheminer aussi.
Alors oui, en tout cas quand c'est en thérapie, ça va au-delà, du pardon, parce que finalement, ce cheminement, le pardon est un passage, mais pour résoudre d'autres choses en général. Mmh. Voilà. Quand c'est une démarche personnelle de pardon, bah, soit la personne s'arrête quand elle retrouve la paix, mais en même temps, elle peut découvrir des choses sur elle-même, des choses sur sa relation à l'autre, et puis, s'enrichir.
Oui, oui, oui. Ah. Oui, oui. Alors, donc, il va y avoir aussi des plans peut-être différents, hein, des plans de pardon. Enfin, on peut pardonner à un certain niveau peut-être, mais il y a peut-être des pardons plus
voilà.
profonds. Voilà.
Ben, ce qu'on se rend compte souvent, c'est que finalement les blessures, elles sont un peu en chaîne.
Oui.
Enfin, il y a comme des liens entre elles, et que voilà, c'est pour ça que en thérapie, parfois ou en analyse pratiquement tout le temps, on remonte très loin dans l'enfance. Parce que les choses sont en chaîne, sont liées entre elles, et que quand on prend une blessure, elle nous mène à quelque chose d'autre, et ainsi de suite.
Parce que ça s'origine généralement beaucoup dans l'enfance.
Beaucoup dans l'enfance.
Donc à un niveau très inconscient, archaïque même.
Un niveau où inconscient et parfois très archaïque, ça peut parfois même avant le langage. Mais c'est un peu comme quand on construit un immeuble, il y a les fondations, puis on pose dessus, et puis et si ça fissure en haut, on peut regarder la fissure jusqu'où elle descend. Pour en thérapie, c'est un peu la même chose, de façon à consolider au niveau de la base, au moment où ça allait bien.
D'accord.
C'est vraiment le travail de retrouver ce moment où ça allait bien pour pouvoir repartir de cet endroit.
Voilà, sur une bonne base.
Sur une base solide.
Un grand merci, Pascal Parinet. Donc, la place du pardon en psychothérapie, c'est le thème ce soir. Et nos auditeurs sont bien sûr invités à nous rejoindre au 01 56 56 44 00. Nous écoutons Alain Souchon et le titre, c'est tout simplement « Pardon ».
Radio Notre-Dame.
Oh libellule si délicate, oh les mésanges petites pattes, gentil coquelicot, pardon chardon, et le noble ver de terre, pardon, le jour se rêve dans nos bépines. Les enfants, chevreuil lancé au-dessus des fleurs, chaude perdrix au tout petit cœur, écureuil renard, pardon vipère, pardon la pluie, pardon la terre, le jour se rêve. La nature, les enfants, le vent les aide, le vent les aide, pardon. On embête les bêtes avec des poudres, avec le DDT et le sulfate de soude. En regardant le temps passer dans la rivière.
flore, pardon la faune. Le jour se rêve sur les légumes, les enfants sur le bitume. Terre jolie, terre, notre mer volante, avec nous dans le ciel et les étoiles filantes. Pardon. Colline fatiguée, pleine, plate, pleurez votre peine de nitrate. Pardon. Pardon. Pour cette flotte plastique bleue qui prend la mer pour les millénaires.
Alain Souchon, pardon, Alain Souchon qui a gardé une âme d'enfant, hein, ouais, c'est ouais. Fray Psautier.
Voilà, on l'entend un peu moins en ce moment. Mais...
Oui, mais il suit son chemin.
Il suit son chemin.
Voilà, fidèle à lui-même, pour notre plus grande joie. Il nous donne de la fraîcheur, hein,
ouais,
c'est ça. Hein.
Ouais, vraiment une fraîcheur d'enfant, mais... comment... Il a gardé la spontanéité, enfin la spontanéité, la fraîcheur de l'enfant, sans être enfant
Oui, bien sûr. Et ah. Oui, parce que c'est un poète, hein, il joue avec les mots, ouais. Mais avec dans une expression et un fond de fraîcheur, de spontanéité, voilà, c'est... Alors, ce soir, nous parlons de la place du pardon en psychothérapie, et... Alors, le pardon en psychothérapie, on va voir, mais quel en est le cheminement?
D'abord, ce que on pourra dire, tout cheminement psychothérapeutique est pas linéaire, c'est quelque chose de circulaire. C'est-à-dire, on fait un peu une spirale qui est approfondie. Alors, c'est voilà, parfois on repasse on voit plusieurs fois la même chose. Mais c'est jamais
C'est jamais un cercle. On sort petit à petit de une spirale. On n'est pas enfermé. On sort comme une spirale. Quoi.
Alors même si on a l'impression de revoir la même chose, on ne le revoit pas pareil, pas au même niveau. Et puis les choses dans la vie, c'est pas droit. Les interactions entre les personnes, c'est aussi quelque chose de circulaire. Et du coup, le cheminement thérapeutique, il reprend ça. Voilà. Et du coup, c'est rare qu'on aille directement comme ça.
Au but, en ligne droite, quoi.
Voilà. D'abord, parce que pour beaucoup de personnes, ça serait quand même assez violent. Et qu'on a besoin de les laisser prendre elles-mêmes leur chemin et de les accompagner dans leur chemin. Et puis aussi parce que justement on découvre pas tout d'un coup sur une chose, on a besoin de la regarder de différentes facettes pour bien en faire le tour, bien la comprendre.
Mais ça peut durer longtemps si c'est une promenade à passer. C'est une... Voilà, c'est...
Ça dure d'abord en fonction de l'attente de la personne. Quand une personne veut juste soigner un symptôme, ça va assez vite. Quand elle veut vraiment changer des choses plus en profondeur dans sa vie, au-delà du simple symptôme, ça prend un peu plus de temps. Voilà, puis on analyse parfois quand une personne veut vraiment prendre conscience de tout ce qui l'amine, tout ce qui l'anime, des processus inconscients, ça prend encore plus de temps.
Donc, ce soir, voilà, on va voir ce cheminement qui n'est pas linéaire, mais circulaire. Alors, voilà, expliquez-nous un peu.
Alors, d'abord, on pourrait dire que la plupart des personnes qui viennent en thérapie le font pour régler des difficultés.
Oui.
Et difficultés qui sont source d'un mal-être ou de souffrance, mais dont elles n'arrivent pas à se libérer, sinon elles ne viendraient pas voir un professionnel. Alors, ce qui fait que bien souvent, elles vont parler de leur ressenti, ce qui va d'abord permettre de l'évacuer, voilà, parce que par la parole, par aussi un revécu en quelque sorte à travers la parole, la personne va évacuer son ressenti, mais aussi surtout pouvoir élaborer dessus. Parce que elle n'est pas toute seule, parce que le psy lui renvoie des choses aussi. Donc à la fois elle s'en libère et elle élabore ce qui s'est passé. Et en même temps, il y en a beaucoup qui, arrivant en psychothérapie, ont du mal à exprimer leurs ressentis. Parfois même.
Pourquoi ? Qu'est-ce qui peut bloquer ?
Alors, y a ceux qui en sont coupés, donc qui ne ressentent plus, ou qui ont, du moins, c'est pas qu'ils ressentent plus, c'est qu'ils n'ont plus conscience de ce qui se passe en eux, dans leur corps, dans leur affectivité.
Et pourquoi ? Parce que c'est tellement bloqué.
Oui. Pour se protéger aussi souvent, hein. ça a été sous la plupart du temps à un moment donné un moyen de se protéger. La personne, alors il y a ceux qui partent dans le rêve par exemple, qui se mettent, il y a des enfants qui vivent des choses douloureuses, ils vont partir ils s'évadent dans l'imaginaire, dans le rêve. Ce qui permet de plus ressentir ce qui se passe dans le présent. Il y a ceux qui vont intellectualiser, qui sont tout le temps dans la tête, tout le temps dans des préoccupations, dans la raison en quelque sorte. Ce qui permet de, non plus de pas être dans son corps et de pas ressentir. Il y a ceux qui vont tourner en boucle dans leur mental, donc ils vont ressasser, ruminer, mais là aussi, c'est une façon de ne pas être dans le présent.
Et c'est pas pareil que d'être toujours dans sa pensée, c'est encore autre chose. Ruminer, c'est dans le mental pourtant.
Oui, la différence, c'est que c'est en boucle. Hein, mais c'est à peu près pareil. Il y en a, ça va être vraiment dans la tête, mais pas forcément en boucle. Ça peut être par rapport aux choses de la vie, être tout le temps dans l'intellectuel. Et puis d'autres, ça va être plutôt dans ressasser...
Même obsessionnel, obsessionnel.
Alors oui, ça peut être obsessionnel aussi. Et puis à l'inverse, il y a ceux qui vont être complètement envahis par les émotions et qui du coup vont essayer de s'en protéger. Soit en évitant les situations, soit de différentes façons, Et du coup, c'est difficile pour beaucoup d'avoir un équilibre entre une bonne conscience de ce qu'ils ressentent et puis de pouvoir l'exprimer.
Donc, on voit, c'est pas si simple que ça.
Non.
Alors, il y a différentes cas de figure. Alors, qu'est-ce qu'il se passe si on n'accepte pas l'émotion, si elle est refoulée, si on refoule l'émotion, par exemple.
L'émotion, c'est de l'énergie, en fait. Hein. c'est un mouvement affectif, mais c'est de l'énergie, c'est fait pour nous mettre en mouvement. Et du coup, si on ne l'accepte pas, elle va rester attachée au souvenir. Par exemple, quand une personne se met en colère parce qu'il se passe quelque chose, dans la colère, elle va libérer son énergie.
D'accord.
Et du coup, après, elle se souviendra, oui, tel jour, j'étais très en colère, voilà, mais c'est pas, mais ça passe. Ah. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que beaucoup de personnes qui se mettent en colère, très vite après, c'est passé, pour eux, c'est plus un problème. Parce que ils ont libéré leur énergie.
Et c'est positif, parce qu'on refoule pas dans ce cas-là.
Et dans ce cas-là, c'est...
Après, on voilà, l'énergie
c'est pas refoulé. Après, faut pas que ça soit défoulé non plus.
Non plus, oui. Ah, c'est le contraire.
Il y a un équilibre à trouver entre refoulé et défoulé.
Voilà.
Parce que parfois, la colère, c'est un défoulement sur les autres.
Ben oui, c'est ça.
Donc, y a un entre-deux à trouver. Mm-hmm. Mais en tout cas, quand c'est refoulé, cette énergie, la personne va la garder et elle va rester attachée au souvenir. Mais comme c'est refoulé, ça va avoir une espèce d'autonomie à l'intérieur de la personne. C'est-à-dire, il va y avoir une dynamique qui est liée à toute cette énergie qui va se mettre en route, ce qui fait que ça revient sans cesse à la pensée, que la personne, quand elle repense à un événement passé, elle va se mettre à pleurer ou à être en colère. Parce que toute l'émotion est restée comme attachée et intériorisée et non pas
exprimée. Oui. Et alors, on va voir entre justement refouler, défouler le juste milieu, comment ça se... Ça s'obtient, oui. Alors, voilà. Oui, parce que le but, finalement, en psychothérapie, c'est... Il faut qu'on arrive à une prise de conscience.
Voilà, le but de la thérapie, finalement, c'est de faire la vérité sur soi-même, de façon à être de plus en plus conscient, non seulement de soi-même, mais de sa relation aux autres, de sa relation au monde, de comment on fonctionne avec les autres, finalement. Et les personnes sont amenées à une conscience de plus en plus profonde et de plus en plus fine de leur ressenti. Ils sont aussi invité à apprendre à l'exprimer d'une façon ajustée en séance, voilà, à l'exprimer avec le thérapeute, mais en même temps qui veille à ce que ça déborde pas et qui lève, alors progressivement, les blocages. Donc on travaille à la fois sur les blocages pour les enlever progressivement. Mais on veille aussi à ce que ça déborde pas, que la personne ne soit pas submergée par l'émotion.
Alors, il peut y avoir, un cas de figure, des émotions positives.
Oui.
Donc c'est très bien, mais ça peut déboucher à un moment donné sur une incompréhension et quelque part faire blocage ou se muer, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là?
Alors,
quand il y a une émotion positive à laquelle peut-être on veut rester attaché, et puis comme on est différent, il y a forcément à un moment donné une incompréhension et peut-être ce mouvement qui se met en place de ça peut se muer en difficulté et peut-être en ressentiment, enfin.
Oui, je comprends pas trop la question.
D'accord. Bon,
ce qui se passe, c'est en thérapie, il y a une élaboration.
Oui.
L'objectif, c'est pas simple, c'est pas de vivre ou de revivre des émotions qui ont été bloquées. C'est de pouvoir les élaborer et pouvoir
en faire quelque chose,
mettre du sens dessus. avoir une meilleure compréhension de ce qui s'est passé. C'est surtout ça. Mmh. À la fois, c'est de, comment, de dénouer ce qui est bloqué, mais aussi, surtout, pour en faire quelque chose et pouvoir mettre du sens dessus.
Voilà, et pouvoir devenir créatif, quelque part.
Alors, et devenir créatif, en tout cas, toute l'énergie qu'on utilise d'une façon négative dans le ressentiment, ou dans le blocage, parce que pour bloquer, on utilise notre corps, donc ce sont des tensions, même si la personne ne se rend pas compte souvent. Mais
donc il y a une énergie
qui
est mobilisée.
Qui est mobilisé dans le corps en entier, dans tout l'être, au niveau du corps, au niveau du psychisme.
Et une tension intérieure, quoi.
Une tension à la fois physique et intérieure.
Et intérieure, oui.
Et cette énergie-là, elle va devenir disponible.
Donc,
Et elle va devenir disponible pour faire, travailler dans sa vie, pour être créatif, pour faire des choses. C'est ce qui fait que il y a beaucoup de personnes qui arrivent en début de thérapie, par exemple, qui sont fatiguées et qui retrouvent assez vite leur énergie, parce que en fait. Toute leur énergie était utilisée dans des conflits internes.
Ouais. Et là, c'est disponible. Ça montre que quelque chose a été dénoué quand on sort d'une fatigue comme ça.
Voilà, ça montre que il y a eu des choses de dénouées, qu'il y a moins de conflits à l'intérieur de la personne, et du coup que ça circule bien. Quoi.
L'énergie est redémarrée, et donc l'impulsion est. Elle retrouve pour vivre.
Pour agir.
Alors, on va y revenir dans quelques instants. Je rappelle le téléphone à nos auditeurs, 01 56 56 44 00. La place du pardon en psychothérapie, c'est le thème de notre soirée avec Pascal Parinet. On écoute tout de suite, c'est Catherine Ringer qui chante, ça s'appelle aussi Pardon. Pardonnez-moi.
Radio Notre-Dame.
L'autobus était mis plein. Près de moi, une place vide. Elle s'approche, s'assoit. Et comme s'excusant de vivre, me dit pardon. Excusez-moi, pardon, pardon. Pardonnez-moi. Le monsieur tendait le bras vers une boîte de haricots. Avait l'air un peu moite. Et moi je pensais vaguement à un gigot. Il me fit pardon.
Excusez-moi.
Pardon, pardon. Pardonnez-moi. Mais y'a pas de pardon. Parce qu'y'a pas de faute. Oh, pas de pardon. Parce qu'y'a rien à pardonner. Alors j'allais en découdre. Je lui dis pardon. Excuse-moi, pardon, pardon. Pardonne-moi. Mais y a pas de pardon.
Catherine Ringer, pardon. C'est notre, la question de ce soir, justement, la place du pardon en psychothérapie, puisque Pascal Parinet est psychanalyste, gestalt-thérapeute et formateur en relations humaines. Donc la question du pardon, vous devez la... Elle est au centre de tout ce qu'on vient vous apporter.
Voilà, même si on le nomme pas directement.
Oui, même si on le nomme pas, oui.
C'est au centre. Enfin, alors en même temps, faudrait pas réduire la psychothérapie à une démarche de pardon.
Oui. Bien sûr.
Ça inclut le pardon, mais la démarche est plus large, plus générale.
Oui. On s'arrête pas une fois que c'est pardonné. Non. On peut justement, c'est une. On peut aller plus en profondeur pour une meilleure connaissance de soi, voilà. des mécanismes aussi, pour voir comment on fonctionne.
Oui.
Alors, on a en ligne tout de suite Attika. Attika, bonsoir.
Bonsoir Chantal.
Bonsoir Attika.
Bonsoir Chantal. J'aime beaucoup votre voix. J'adore votre voix. Tous les soirs, c'est... Bon. Mais... Alors, Pascal, le psychanalyste, bonsoir.
Bonsoir.
Je voulais vous parler du... complexe d'Oedipe. Hein.
Oui.
Freud a mis le doigt dessus et à juste titre. Hein. Mais il n'y a pas de mais Jésus, aux noces de Cana, quand Marie vient lui dire ben, ils n'ont plus de vin, et Jésus lui répond à sa propre mère, il lui répond mais femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? C'est-à-dire Jésus, pour accomplir. Sa capacité d'homme libre, il a dû rejeter sa mère un peu, il l'a un peu bousculé, même un peu violemment. Jésus est à peu près le seul homme à avoir accompli, réglé le complexe d'Oedipe. Voilà.
Oui, je sais pas.
Faudrait
qu'il aille sur un divan, mais je suis pas sûr qu'il en ait besoin.
Pardon, Pascal, pardon.
Je dis en rigolant, faudrait qu'il aille sur un divan pour qu'on en soit sûr, mais je ne suis pas sûr qu'il en ait besoin.
Mais en retour, pour nous les hommes et les femmes qui ont du mal avec leurs parents,
ouais.
Jésus nous donne sa mère. Parce que je vais vous dire, Pascal, si un jeune homme ou une jeune femme adulte, en entrant dans la vie adulte, ne pardonne pas à son père ou à sa mère qu'il a porté sur un piédestal,
oui.
Mais cette mère ou ce père n'a pas été à la hauteur du piédestal, je ne sais pas qui doit pardonner à l'autre. Est-ce que c'est l'enfant? C'est l'enfant ou le parent qui doit pardonner à l'autre?
Il y aurait beaucoup à dire. D'abord, moi j'ai envie de corriger Jésus, il s'est différencié de sa mère. Il lui signifie en quelque sorte qu'il est un autre être.
Qu'il est libre.
Voilà. Donc c'est vraiment.
Lui, il est libre de toute façon. Voilà. Hein, il a toujours été libre.
Et ça commence.
Pardon, Chantal. Je réponds à votre intervention, Chantal. Au temple, quand Marie et Joseph recherchent leur fils de 12 ans, alors qu'ils le retrouvent au temple en train de palabrer avec les grands, les théologiens.
Ben il était libre déjà.
Obéissant, il retourne avec ses parents. Il y a encore.
Ben oui, mais ça va ensemble, l'obéissance. Je veux dire, c'est pas la désobéissance qui fait qu'on est, c'est la mauvaise liberté, ça.
Oui.
La désobéissance.
À 12 ans, Jésus, encore obéissant, il dit d'accord.
Mais on a tous à être obéissant. Je veux dire, être l'obéissance, oui. Elle est inclue. Enfin, je veux dire que c'est pas la désobéissance qui est.
Et puis il démarre déjà, il dit « je m'occupe des affaires de mon père ».
Voilà, il est déjà...
Après,
donc, il n'a que 12 ans, hein.
Voilà,
ben
oui.
Donc il obéit à son père.
Et du coup, il se démarque, commence à... En quelque sorte, il est déjà dans une préannonce de ce que sera son avenir.
Et puis en même temps... Dans notre canard, c'est un homme... qui sait qu'il faut qu'il entre dans la vie d'adulte, homme, et quand Marie, sa mère, vient solliciter pour un quelque chose, que on se demande en quoi ça la concerne, Marie, qui n'a plus de vin, mais elle vient un petit peu le bousculer, genre lui dire, allez, mon fils, c'est l'heure maintenant, et ben c'est l'heure. Et lui, non, il ne veut pas répondre tout de suite. Il lui dit d'abord, prends de la distance, mère, femme, prends de la distance. Je n'ai rien à voir avec toi. Prends de la distance.
Mais il n'y a pas de mépris dans ça. Y a pas, elle ne l'envoie pas pour balader. Hein, c'est
ce qu'on a tous à faire d'une certaine façon pour grandir.
C'est difficile, mon père. Pardon, vous n'êtes pas prêtre, non. Pascal, c'est difficile. Le complexe de vie.
Je dis pas. Le jeune homme
n'arrive pas à se détacher du giron de la mer.
Ouais.
Je parle en connaissance de cause. Hein.
Jeune homme et homme, même parfois.
Oui, même homme, même 40 ans, même. C'est difficile de se séparer du giron de la mer, l'emprise de la mer. Et ça peut étouffer. Une mère a tendance comme ça à étouffer son fils. Hein. Bon, je parle du fils parce que j'ai pas de fille, mais. La fille, je connais pas trop le schéma, mais un fils, ça peut vraiment être étouffé et détruit par une mère, vraiment.
Parfois, pas toujours.
Oui.
Hein, mais voilà, donc il y a cette différenciation qui se fait en général, d'ailleurs, un peu à la fin du lycée, enfin pendant la période des études ou quand le jeune part travailler, ça peut varier. Disons aux alentours entre 18 et 20 et quelques années. Pour certains, ça dure beaucoup plus longtemps.
Oui. Maintenant, de nos jours, on voit des jeunes hommes qui restent chez leur mère ou leurs parents jusqu'à l'âge de 30, 35 ans.
Oui. Alors, il y a aussi plusieurs choses. C'est que les jeunes font des études de plus en plus tardives.
Oui.
Que la vie qu'aujourd'hui pour s'installer quand on est jeune, c'est difficile. Puis finalement,
mais
ils sont bien.
Ils restent enfants, voilà. Ils restent infantilisés dans le foyer de la mère.
Mais peut-être que la mère aussi a un rôle à jouer pour pousser l'enfant au
revenu.
C'est le père qui c'est son rôle. Hein.
Ah, voilà. Alors parlons du père. Le père, quand il est absent, Joseph, où il était aux noces de Cana, je vais pas toujours revenir aux évangiles, mais pour moi, c'est les évangiles, c'est très enseignant, c'est magister, hein, l'enseignant. Les évangiles sont enseignants bien avant Freud. Hein. Où était Joseph ce soir-là? Bon. Et c'est Marie qui intervient. Bon. Et Jésus dépasse
Oui, la seule chose qu'on pourrait répondre, c'est que toute cette période de l'adolescence de Jésus, entre 12 ans et puis 30 ans, on sait rien de lui, à part qu'il a repris le métier de son père. Donc ça veut dire que Joseph a quand même été présent, lui a transmis son métier, et cette séparation d'avec Marie, elle était déjà faite. Voilà, donc ça, on sait pas. Mais j'ai envie de répondre à ce que vous disiez. Pardonner à ses parents.
Oui. De leur vivant, Pascal.
Oui.
De leur vivant.
Alors, peut-être faut faire attention que les parents sont pas toujours fautifs. Ils font ce qu'ils peuvent d'abord. Après, ils peuvent faire des erreurs. Il n'y a rien de parfait sur Terre. Donc, je crois que c'est important de pas voir ça comme une démarche systématique. Par contre, du côté de l'enfant qui grandit, il y a plusieurs choses. D'abord, tout petit, à l'origine, il clive. En quelque sorte, les bons et les mauvais parents, c'est-à-dire le parent qui lui amène du bien-être et le parent qui peut lui amener de la douleur ou des choses comme ça. Et ça, on retrouve ça dans les contes. entre la bonne fée et la sorcière. Ce sont deux imagos parentales où d'un côté il y a ce qui est bon, de l'autre côté ce qui est pas bon.
Alors, et le mythe de tuer l'un des deux, ou tuer le père.
Alors
tuer...
ça c'est le mythe d'Oedipe. Mais déjà là on est avant même l'Oedipe. Il y a déjà à réunir ces deux aspects, c'est-à-dire l'enfant. D'un côté, il peut idéaliser certains aspects de son parent, et de l'autre côté, il peut détester d'autres aspects. Et il a à prendre conscience à un moment, normalement ça se fait dans l'enfance et puis ça se refait un peu plus tard, que finalement le parent c'est le mélange des deux. Le parent réel, il n'est pas ou tout bon ou tout mauvais, il est comme l'ivraie et le bon grain, c'est mélangé. Donc il y a cette prise de conscience-là. Et puis il y a une deuxième prise de conscience qui est plus au début de l'adolescence, c'est-à-dire quand l'enfant quitte le monde de l'enfance pour grandir, et devenir adolescence. En fait, les parents de l'enfant, ils sont idéalisés, c'est-à-dire que pour un petit enfant, les parents, ils peuvent tout faire, ils sont tout puissants, ils n'ont pas de problème d'argent, ils n'ont pas...
Le fameux piédestal.
Voilà.
C'est là que tout se joue. Hein.
Pas tout, mais beaucoup de choses. Et à l'adolescence, ils réalisent que ses parents, ben, finalement, ils sont un peu ordinaires, quoi.
Faibles.
Voilà.
Limités.
Ouais. Ils peuvent pas aller à la banque chercher de l'argent s'il y en a pas. Il faut qu'ils travaillent. Il faut qu'ils travaillent pour avoir l'argent.
C'est la réalité quotidienne.
On pourrait dire le petit enfant, il est un peu dans une pensée magique et toute puissante des parents. Et puis l'adolescent, il découvre la réalité, en gros, hein, pour simplifier. Et du coup, c'est pas tant à pardonner à ses parents, mais plus à les accepter. C'est-à-dire, c'est vraiment... Il y a vraiment à accepter nos parents tels qu'ils sont, en sachant qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu avec
leur fragilité.
Voilà. Et puis, alors, quand il y a eu vraiment des choses graves, là, il y a à pardonner. Mais je pense pour 80%, c'est plutôt accepter, et puis pour 20%, pardonner.
Voilà, Attika.
Merci, Jean-Paul, je vais pas monopoliser.
Voilà, parce qu'on arrive à la pause.
Mais Pascal, c'est incroyable comme l'être humain dépend de ses parents. Tout se joue au niveau de la relation père-mère-enfant. Ce triangle, c'est incroyable, je veux dire, il régule après tout le reste de la vie du petit enfant.
Oui, et puis toute la vie, on réajuste notre relation. Alors là, je parlais de l'adolescence. À 30 ans, quand on devient parent soi-même, on réajuste. À 50 ans, quand on vieillit, on réajuste.
Et après, il est trop tard, parce qu'il est trop tard.
Non, il n'est jamais trop tard.
Il n'est jamais trop tard.
Mais non. Merci, en tout cas, Attika. Merci. Bonsoir. Je rappelle le téléphone à nos auditeurs 01 56 56 44 00. La place du pardon en psychothérapie. Il y a une différence avec, évidemment, c'est pas le même plan que le plan spirituel.
Non,
on
n'est pas sur le plan spirituel.
Voilà, on n'est pas sur le plan spirituel. C'est le plan de la psyché.
Humain, de l'affectivité, de la psyché.
Voilà. Donc, nous vous invitons à nous rejoindre avec vos questions, vos témoignages sur le pardon. On se retrouve tout de suite après 23h.
Thank you. Radio Notre-Dame.
Vous cherchez une solution pour augmenter vos revenus et améliorer votre confort de vie?
Renseignez-vous auprès d'Experts Viagers. La vente en viager libre ou occupé de votre bien immobilier vous assure un capital de départ et une rente mensuelle permanente garantie par votre notaire.
Contactez un conseiller expert viager au 01 64 35 74 81. Étude gratuite et sans engagement.
Experts Viagers, 01 64 35 74 81.
01 64 35 74 81.
La chronique du service catholique des funérailles, Christian de Cacret.
La pratique de la crémation ne cesse de se développer. Parti de presque rien dans les années 70, le taux de crémation est actuellement de plus de 30% des obsèques en France. Pourquoi ? Parce que ce mode de sépulture est en phase avec une mentalité individualiste qui prône la maîtrise de sa vie jusqu'au-delà de la mort. Avec la crémation, beaucoup de nos contemporains échappent à la tombe, symbole de la filiation. Mais aujourd'hui, la question que pose la crémation est tout autre. Elle est celle du rôle que doit jouer le crématorium. Ces établissements qui se sont multipliés au cours des dernières années sur le territoire français, sont-ils un lieu technique de combustion des corps ou le lieu symbolique de la célébration de l'adieu?
Pour donner tout son sens au parcours des funérailles, Service catholique des funérailles, le service de pompe funèbre catholique, au 01 44 38 80 80.
Dans la nuit, il est 23h.
Radio Notre-Dame.
Donc ce soir, avec Pascal Parinet, qui est psychanalyste et gestalt-thérapeute, formateur en relations humaines, donc nous parlons du pardon, de la place du pardon en psychothérapie. Est-ce que justement, puisque au sein de cet institut de formation psychrétien, vous animez des stages avec Marie Laurence, votre épouse, donc est-ce que prochainement il y a quelque chose sur le pardon ou bien sur ce qui pourrait s'en rapprocher?
Alors, sur le pardon, pas directement. Par contre, on a un stage sur gérer les émotions du 16 au 18 juin et sur la confiance en soi du 7 au 9 juillet. Alors, on vient de parler qu'il y a tout l'aspect émotionnel en thérapie, mais aussi, on verra dans le pardon aussi, il y a tout un aspect émotionnel à gérer. Mm-hmm. On disait ni refouler, ni défouler.
Oui, c'est ça. Donc,
voilà, donc ça, c'est la gestion des émotions. Et puis, on verra aussi que, finalement, le pardon, il vient, en tout cas les blessures viennent toucher la confiance en soi. Mm-hmm. Et du coup, il y a aussi le stage sur la confiance en soi au mois de juillet.
Au mois de juillet, du 7 au 9 juillet. Alors peut-être on peut donner le téléphone
oui,
pour vous.
Alors, c'est le 06 60 15 79 60. 06 60 15 79 60, et sinon en tapant psychrétien.com sur internet.
Voilà, merci Pascal Parinet. Alors peut-être il y a aussi quand on est sur ce chemin, on parlait de la personne parle des expériences qui l'ont blessée, donc de son ressenti. Hein. C'est important de parler de son ressenti, de son mal-être. Et puis il y a une deuxième phase, trouver du sens aussi à ce qu'on a vécu, qui est libérateur. Quand on parle de son ressenti, oui. On doit trouver. Alors, il y a une phase.
Voilà, il y a parler de son mal-être, aussi des événements qui l'ont blessé. Parce que la thérapie, ça a quelque chose de concret. On guérit pas du général.
C'est une situation, il y a des événements, il y a des blessures.
Et du coup, on travaille sur ce qui s'est passé, sur ce que vit la personne, comment elle le vit, sur des choses assez concrètes. Et puis après, elle peut élaborer et si au besoin en faire des lois générales, mais ça passe par les choses concrètes. Et puis, tout ce regard qu'elle va porter sur ce qui l'a fait souffrir, sur les mécanismes aussi qu'elle a mis en place pour éviter la souffrance, parce que on met tous en place des mécanismes pour éviter de souffrir. Par exemple, l'oubli. C'est un mécanisme. Il y a plein de personnes qui oublient le mal qu'on leur a fait.
C'est pas passer l'éponge, pardonner ça, oublier.
Non, c'est pas pardonner, c'est vraiment un mécanisme de protection. Elles vont refouler et oublier ce qui s'est passé.
Et ça, c'est pas bon parce que c'est refoulé.
Et ça peut être soit des événements.
Oui.
Ou il y a des personnes comme ça, dès qu'il y a un truc qui va pas, ils l'oublient.
Oui.
Ou alors, des pans de la vie entière qui sont complètement oubliés, des personnes qui n'ont aucun souvenir de leur adolescence, par exemple. Il y a le déni, qui est un autre mécanisme. La personne va faire comme si il s'était rien passé, donc elle va se couper.
Ah oui.
De ce qui s'est passé de façon à ne pas souffrir.
Ah oui, d'accord.
Il y a la projection. Il y a tout un tas de mécanismes comme ça.
Et est-ce qu'on peut passer d'un mécanisme à l'autre? Il peut y en avoir plusieurs.
On peut en utiliser plusieurs. Il y en a des prédominants. Chacun utilise plutôt certains mécanismes qui sont liés à son mode de fonctionnement. Et puis on utilise plusieurs.
En renfort.
Voilà. Alors, mais en même temps, ça permet d'éviter la souffrance au moment présent, mais à long terme, c'est plus coûteux. À la fois, c'est...
Pourquoi c'est plus coûteux?
Parce que la personne garde en elle la souffrance.
Et elle est toujours dans une protection.
Et elle est toujours à l'intérieur d'elle. Donc ça continue à agir en elle, et puis elle fonctionne sur un mode défensif qui va être coûteux en relation humaine. Et du coup, quand on regarde, finalement, peut-être là où ça aurait... Mais c'est pas toujours possible, hein. Mais là où ça aurait été finalement préférable de régler les choses tout de suite... au lieu de ça, la personne va traîner ça pendant des années. Hein. On voit ça, par exemple, dans les ruptures amoureuses qui se finissent mal. Parfois, ça serait mieux d'aller bien s'expliquer, de régler, peut-être d'en parler avec d'autres de façon à clarifier. Et puis, il y en a qui gardent ça au fond d'eux et qui sont malheureux pendant des années sans arriver à faire le deuil, par exemple.
Voilà. Alors, oui.
Alors, en tout cas, tout ce travail sur la gestion des émotions, la prise de conscience de ces mécanismes, tout ça, ça va aider à assumer son vécu et puis surtout à mettre du sens.
Donc l'étape du sens.
Voilà, l'étape du sens.
Oui.
Parce que la personne, pendant la thérapie, elle en parle avec le thérapeute, elle va réfléchir dessus aussi.
Ça vient à la lumière. Quoi.
Voilà, ça vient à la lumière. Il y a toute une élaboration après coup de ce qui s'est passé, et tout ça, ça permet à la personne de trouver le sens et aussi un fil conducteur dans sa vie. Ce qui fait que finalement, il s'agit d'être à la fois conscient de soi. Et de comprendre comment on interagit, comment on a interagi dans le passé face à certaines situations, face à l'environnement. Cette compréhension, elle permet de donner une signification à son histoire et à tout son vécu. Et puis ça éclaire aussi sur l'avenir, parce que quand on sait, quand on découvre le fil rouge de son histoire, ça nous éclaire alors sur le passé et le présent, mais ça aide à construire l'avenir différemment.
Bien sûr, oui. Alors ça, c'est cette nécessité de... le sens, hein, le sens vient lorsqu'on élabore. On comprend mieux aussi son mode de fonctionnement.
Oui, parce que d'abord, on met du sens sur comment on a vécu les choses, comment on y a réagi, et quel impact ça a eu dans notre vie par la suite. Et du coup, la personne est amenée à mieux comprendre comment ce qui s'est passé et comment elle a réagi.
Donc, comment elle fonctionne.
Comment elle fonctionne. Mm-hmm. Et oui. Du coup, à accepter son humanité.
Et oui. Alors, justement, quand on prend conscience de son mode de fonctionnement, hein, et que l'on commence à porter un regard neuf sur soi à ce moment-là.
Oui, d'accepter de ne pas être parfait aussi.
Oui.
D'accepter les autres.
Donc l'acceptation, on s'accepte mieux.
On s'accepte mieux.
Tel qu'on est.
Voilà, alors l'acceptation, c'est pas la résignation.
Oui, bien
c'est
sûr.
Pas.
Souvent, comme ça,
d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui arrivent en disant je suis comme ça, je peux pas changer.
Oui, alors là.
Et là, c'est pas de l'acceptation. Quand on dit je suis comme ça, c'est pas de l'acceptation.
C'est de la résignation. On se résigne à être.
C'est une forme de résignation, oui.
Ne pas bouger.
Voilà. Alors que là, dans l'acceptation, c'est la personne comprend comment elle fonctionne, comprend les mécanismes qu'elle a utilisés, mais elle se donne aussi la possibilité d'en changer. De ne pas les utiliser ou de les utiliser si vraiment il y a besoin.
Donc, voilà, elle devient libre par rapport à cette. Elle n'est plus enchaînée à des mécanismes.
Voilà, un fonctionnement un peu.
Inconscient
et un peu monolithique, c'est-à-dire toujours sur le même schéma. Voilà, ce qui l'ouvre à une créativité dans les relations, en fait. Ça lui permet. De choisir comment elle va vivre, comment elle va être en relation, comment elle interagit avec le monde, d'une façon plus créative et moins stéréotypée.
Voilà, c'est l'acceptation. Hein, et finalement, c'est un paradoxe, parce qu'elle va pouvoir changer. Le paradoxe du changement, c'est finalement...
Alors, je sais plus, je crois que c'est Lowen qui disait ça, mais je suis plus sûr de quel thérapeute humaniste disait ça. Le paradoxe du changement, c'est de s'accepter tel que l'on est, parce qu'à partir de là, on peut changer. C'est-à-dire, tant qu'on lutte contre soi-même et qu'on ne s'accepte pas, on renforce les mécanismes et on ne change pas. À partir du moment où on s'accepte avec ses qualités, ses faiblesses, ses fragilités, eh bien, on peut changer, trouver des modes de fonctionnement plus créatifs.
Et puis, on accepte aussi peut-être plus facilement les événements, parce qu'on les voit aussi comme des moyens aussi qui sont offerts pour... Non ? Donc, c'est pas...
Oui et non. On accepte mieux les événements
comme
une réalité.
Oui.
C'est-à-dire comme le chemin qu'on a pris pour être ce qu'on est aujourd'hui, par exemple.
Oui, oui.
Voilà, du coup, on l'accepte comme... on accepte la réalité. Ça a été le chemin parcouru, c'est ce qui nous a construit tel qu'on est. Ça veut pas dire que pour autant, par exemple, quelque chose d'injuste, on dira c'est bien que c'était injuste, ça m'a permis de comprendre l'injustice.
Oui, d'accord.
Je crois à la fois faut garder une lucidité mm-hmm. sur la vie, que la vie, des fois, elle est injuste, des fois. Elle occasionne de la souffrance, que des fois elle est difficile et pour certains même parfois il y a des choses horribles. Et c'est pas un moyen qui nous est donné.
Non, non, c'est pas un moyen qui nous est donné.
Je pense qu'il y a un mouvement actuellement sur le pardon qui en fait fait une espèce de recadrage.
C'est-à-dire
qui dirait un peu ça. Finalement, tout ce qu'on m'a fait de mal, ça m'a été envoyé pour mon bien.
Ah oui, non, oui, oui, c'est pas une sorte de...
Mais c'est un recadrage psychologique, c'est un changement de registre. Mais voilà, je trouve que non, il y a la réalité parfois qui est injuste.
Oui, bien sûr, mais oui. Mais alors peut-être que cette réalité injuste, là aussi, il faudra accepter le réel, c'est consentir.
C'est d'accepter le réel.
Hein? Ouais. Mais pas de dire c'est bien, mais à partir de cette acceptation, il peut se passer quelque chose. Qu'est-ce qui peut se passer alors, comment le fait de s'accepter permet-il de...
Ça permet de lâcher prise surtout. Sur le contrôle, c'est-à-dire que quand la personne n'a plus besoin, parce que quand on est blessé, on se protège, et quand la personne n'a plus besoin de se protéger, en tout cas en permanence, parce que si quelqu'un nous agresse, faut bien protéger. Mais en permanence, à ce moment-là, elle n'a plus le besoin de tout contrôler et elle peut lâcher prise. Si la personne ne craint plus d'être rejetée ou de ne pas être aimée ou de ne pas être à la hauteur, à ce moment-là, elle peut se faire confiance et agir et puis il y a le résultat qu'il y a. Mais elle n'a plus cette pression et ce besoin de ce contrôle, et du coup, elle peut vraiment lâcher prise.
D'accord. Alors, c'est là qu'intervient aussi, il y a la confiance qui joue aussi, là. Elle peut se faire confiance à ce moment-là.
Le lâcher prise, ça fonctionne vraiment avec la confiance. Mais c'est parce qu'elle a pu s'accepter telle qu'elle est qu'elle peut se faire confiance. Et puis finalement, quand on regarde notre vie, sur une échelle un peu plus longue que l'immédiat, on se rend compte que les choses s'arrangent. C'est-à-dire on peut passer par des périodes difficiles, mais au bout d'un moment, ça s'arrange.
Et ça s'arrange comment alors? Que dit le thérapeute là?
Parfois, naturellement, parce que la personne trouve des chemins, parfois parce qu'il y a on trouve des personnes sur notre route qui nous aident.
Oui, c'est ça.
La famille, parfois en changeant de travail.
Des changements qui sont intérieurs, mais aussi extérieurs.
Qui peuvent venir aussi de l'extérieur. Et du coup, ce regard où on voit que les choses s'arrangent, ça donne confiance dans la vie. Et du coup, le lâcher prise, c'est vraiment ça, c'est la confiance en soi et la confiance dans la vie. Alors, la vie est pour le croyant de la confiance dans la providence et en Dieu. Mais déjà, même si quelqu'un qui ne serait pas croyant croit que à la vie, que dans la vie, on dit tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir,
De se faire confiance à la vie, ça libère aussi, il y a lâcher prise.
Il y a lâcher prise, on n'a plus besoin d'être sur un mode défensif, de tout contrôler.
Et donc le but de tout ça, de ce cheminement
Le but de ce cheminement, finalement, c'est de prendre la responsabilité de sa vie. Il y a Sartre qui a écrit l'important... Alors, je dis l'esprit de la phrase, je ne sais plus si c'est exactement dans le texte. L'important n'est pas ce qu'on a fait de moi, mais ce que je fais moi-même de ce qu'on a fait de moi. Autrement dit... finalement, j'ai pu être blessé dans le passé.
Et ça, bon, ben...
Voilà, ça fait partie de la vie.
Oui.
On pourra dire que c'est inévitable.
Tout le monde vit ça.
Personne n'est parfait, donc on se blesse mutuellement et puis simplement par nos différences, on se blesse. Mais ça, c'est pas le plus important. L'important, c'est qu'est-ce que j'en fais. Alors, ça rejoint...
Le choix, qu'est-ce que je vais choisir, quelle voie.
Ça rejoint et la résilience... On peut rebondir sur des événements, sur notre passé. Et puis, ça rejoint la liberté et le choix de qu'est-ce qu'on fait de sa vie.
Alors, qu'est-ce que je fais de ma vie?
Est-ce qu'on se morfond dans le passé, dans le ressentiment, dans la vengeance, ou est-ce qu'on accepte ça, qu'on le regarde? Bien sûr, ça prend du temps parfois, pour en faire quelque chose de nouveau pour sa vie.
Un grand merci, Pascal Parinet. Donc, je rappelle à nos auditeurs le téléphone 01 56 56 44 00. On se retrouve dans quelques instants.
La Bible, pas à pas.
Bonjour Jocelyne.
Bonjour Étienne. Que dirais-tu de m'accompagner chaque semaine, pas à pas, sur le chemin de la Bible?
Ok, mais pourquoi faire?
Pour y ramasser des petits cailloux blancs. L'idée, c'est de s'arrêter à chaque symbole attaché à un personnage biblique.
Ah, comme la colombe de Noé ou le buisson ardent de Moïse.
Ou même les lions du prophète Daniel.
Et tu nous aideras ainsi à comprendre les Écritures.
C'est ça.
La Bible, pas à pas, avec Jocelyne et Étienne Tarnot. Tous les dimanches à 10h30. Sur Radio Notre-Dame.
Il est fissuré, la peinture s'écaille, votre plafond vieillit. Creative Design lui donne un coup de jeune et le remplace par un magnifique plafond tendu. Quelle classe! Sans odeur ni poussière, sans déménager, Creative Design vous en assure la pose dans la journée. Fini les plafonds abîmés, cloqués ou humides. Avec Creative Design, votre plafond tendu mat, satiné ou brillant, garanti 10 ans, est tout simplement superbe. Appelez vite Creative Design pour un devis gratuit au 01 58 88 21 20 58 88 21 20.
Vous cherchez une solution pour augmenter vos revenus et améliorer votre confort de vie?
Renseignez-vous auprès d'Experts Viagers. La vente en viager libre ou occupée de votre bien immobilier vous assure un capital de départ et une rente mensuelle permanente garantie par votre notaire.
Contactez un conseiller expert viager au 01 64 35 74 81. Étude gratuite et sans engagement.
Experts Viagers, 01 64 35 74 81.
01 64 35 74 81.
Vox Libri. Bonjour, c'est Philippe Delaroche. Je vous invite à nous rejoindre sur Vox Libri, l'émission hebdomadaire qui traite de l'actualité du livre religieux, du roman et des essais en compagnie de nos invités.
Vox Libri avec Philippe Delaroche, tous les mardis et jeudis à 11h30 et 19h30 sur Radio Notre-Dame.
Radio Notre-Dame.
Voilà, ce soir, avec Pascal Parinet, nous parlons de la place du pardon en psychothérapie. Alors, nous allons écouter tout de suite, je crois, c'est Bernard qui est en ligne. Bonsoir, Bernard.
Oui, bonsoir, Chantal. Bonsoir, Pascal.
Bonsoir.
Oui, donc, on va parler un peu par la difficulté de pardonner. C'est surtout par rapport à quand c'est quelque chose de par rapport à quelqu'un que l'on aime, enfin qui c'est pas forcément le fait qu'il y ait une haine, mais il y a toujours bon c'est peut-être un certain amour, mais c'est par rapport à son attitude, le souvenir d'une attitude mauvaise qu'il a eue. Et donc le fait, c'est surtout ce qui travaille, c'est cette incompréhension, quoi. On se pose la question pourquoi avait-il fait ça, quoi.
Alors donc,
difficulté à parler. Que c'est ce questionnement-là qui fait peut-être aussi.
Oui, mais en fait, c'est souvent plus difficile à pardonner aux gens qu'on aime qu'aux gens qui nous sont indifférents ou qu'on n'aime pas. Simplement ceux qu'on n'aime pas, de toute façon, en général, on n'attend pas grand-chose de bon de leur part. même s'ils peuvent nous donner, mais dans la mesure où on les aime pas, on se dit, on est presque un peu, on est plutôt dans l'attente de quelque chose qui nous conviendrait pas. Et du coup, on est beaucoup moins touché par s'ils nous disent quelque chose de désagréable, par exemple.
Voilà. Quand on souffrerait moins si on n'aimait pas.
Oui, sans doute, parce que. Alors après, tout dépend, tout dépend des circonstances.
Il y a aussi le manque d'amour aussi.
Voilà. Mais peut-être que, en tout cas, quand c'est une personne qu'on aime,
on est plus touché, forcément.
On est plus touché. Et puis, c'est surtout quand on attend, on idéalise la personne quand on aime. Et du coup, on attend quelque chose, on s'attend toujours à du positif avec les personnes qu'on aime. Et du coup, s'il se passe quelque chose de négatif, on en est d'autant plus touché. Vous voyez, c'est le côté idéalisation de l'amour qui fait que c'est un peu plus dur à pardonner à ceux qu'on aime.
On me dit que il faut pardonner. Bon, c'est vrai que intellectuellement j'essaye de vouloir pardonner, mais c'est mon cœur qui fait mal.
Ouais,
c'est... Il y a une sorte, dès que je pense à vouloir pardonner, il y a la chose dans le cœur qui sorte de quelque chose, un muscle qui force, qui fait.
Oui. Ouais. Résistance, oui.
Voilà, c'est à la fois.
Et ça nous empêche de pardonner. Il y a une guérison qui peut être faite par rapport à ça.
Oui, parce que en fait, c'est pas la douleur ou la souffrance qui empêche de pardonner. Ce qui empêche quand vous dites il y a mon cœur qui fait mal. Ce qui empêche, c'est finalement la peur de souffrir ou la peur de cette souffrance. Parce que dans le pardon, on va voir, mais il y a à traverser cette souffrance. Finalement, quand on est blessé, ça fait souffrir et on n'a pas d'autre choix que en tout cas de vivre la tristesse, par exemple. Mais ça se traverse et quand on essaye de l'éviter, mais ça on est tous un peu comme ça, je connais personne qui a envie d'aller vers la tristesse ou vers
Jésus la coupe, si cette coupe ouais. On a tous plutôt envie de que la coupe, et pourtant
la coupe, c'est
il l'a traversée mais nous à notre mesure aussi.
Voilà, mais nous aussi, quand quelqu'un nous blesse, finalement, on n'a pas d'autre choix aussi. Par exemple, si ça nous rend triste, que d'accepter d'être triste, parce que c'est normal.
Donc c'est encore l'acceptation de l'état, mais pour le traverser.
Mais pour le traverser.
Pas pour stagner dedans.
Voilà. Et en fait, on stagne dedans, ou en tout cas, on stagne tant que... Je vais prendre un peu une image. C'est un peu comme quand on a traversé une rivière, mais que l'eau est froide. Soit on met un pied dedans, et puis on dit, oh là là, c'est froid, et on reste... on n'arrête pas de...
Oui,
on retire le pied, on le remet, et on traverse jamais. Soit on dit, ok, c'est froid, mais j'en ai pour 2 minutes à traverser et j'y vais. Mais quand on traverse, c'est pas agréable. Quelque part, quand on nous a fait du mal et que ça nous rend triste ou que ça nous rend en colère ou les deux, on est dans cette position-là. On a le choix à se dire, oh là, ça fait mal, j'y vais pas. Mais on reste quand même à la frontière et du coup ça nous fait tout le temps un peu mal.
On dépasse.
Ou alors à un moment on se dit c'est vrai, ça me fait mal, ça me rend triste, c'est vrai, mais je vais traverser ça.
Alors, il y avait aussi quelque chose...
C'est pas une décision, un choix, une décision. Il faut se décider, il faut poser un acte de décision.
Alors, c'est pas toujours une décision, parce que ce sont aussi des mécanismes de protection. Oui. Du coup, c'est là où on a besoin des autres, parfois. Mm-hmm. Parfois, on a besoin de trouver un ami avec qui aller pleurer, pour pas pleurer tout seul. Mmh. Ou quand l'ami ne suffit pas, ça peut être d'aller voir un psy à qui on va pouvoir aller exprimer tout ça et qui saura nous aider. Voilà.
Mmh. Alors, il y a une chose aussi qui était incroyable, enfin, qui se passait en moi, c'est que avec cette personne, que je nourrissais de la rancœur, tout ça, mais avec d'autres personnes, il y avait comme une sorte de vide, d'intérêt et une envie de garder un peu cette chose, même si ça fait mal, mais pour éviter de rester, de pas être dans le vide, de pas être dans l'ennui, un truc comme ça, quoi.
Ouais.
Enfin,
pas lâcher la souffrance.
Qu'est-ce qui m'arrive
Ouais. Alors ça c'est important. On parlera après de qu'est-ce qui empêche le pardon.
Oui.
Mais parfois on préfère garder un lien de souffrance plutôt que de plus avoir de lien.
Oui, de se sentir vide, enfin, ou d'avoir une vie, enfin, qui est inutile parce que j'ai.
Voilà. Et du coup. Là, il y a besoin de l'aide d'un thérapeute, souvent, d'abord parce que...
On s'enchaîne dans la souffrance avec ça, quoi.
D'abord parce que on a horreur du vide, la nature a horreur du vide, et l'être humain encore plus. Et du coup, il y a des fois, on préfère garder le lien avec la personne qui nous a blessés, garder cette rancœur, cette souffrance qu'on vit, plutôt, alors, c'est peut-être là où, plutôt que d'imaginer qu'on va être vide sans ça.
Accepter le vide, vous voulez dire
C'est-à-dire, souvent c'est imaginaire.
Oui, c'est ça, oui.
C'est-à-dire, on se dit, mais si j'ai plus de lien avec cette personne, à ce moment-là, je vais me retrouver vide. Ou si j'ai plus cette souffrance, je vais me retrouver vide. Voilà, mais y a quelque chose d'autre à trouver. En gestalt thérapie, on parle du vide fertile. Parce que il peut y avoir un moment où ça passe par le vide quand on se sépare, quand on coupe un lien. Il peut y avoir un moment où on sent un peu le vide. Mais de ce vide, il peut émerger quelque chose de nouveau, quelque chose de créatif. Vous voyez?
Et puis une dernière chose, en fait, que j'avais, enfin, parce que j'avais essayé plusieurs méthodes, enfin, la méthode couvert ou les trucs comme ça, et puis bon, il y avait une personne qui m'avait dit, donné un conseil, c'était par une visualisation, il parlait de visualisation, c'était visualiser que vous êtes en train de faire d'embrasser, enfin, la personne, ou de lui faire une accolade, enfin, d'avoir un geste, imaginer un geste tendre, mais de le visualiser, quoi.
Ouais.
Et c'est vrai que c'était un petit peu plus facile parce que ça m'avait donné une volonté, justement, de sortir de la souffrance. Mmh. Et ça m'a aidé beaucoup, cette visualisation. Enfin, je sais pas si...
Voilà, oui.
C'est cette méthode, la visualisation.
Oui, alors, la méthode Kwe, elle marchait...
Oui, non, c'est pas bon. Enfin, ça dépend des gens. Il y a des personnes
La méthode Kwe a marché très bien avec Kwe. Il avait vraiment la foi à déplacer les montagnes. Donc quand il disait que ça allait arriver, il avait
sa foi
déplacer les montagnes. Et donc, mais on n'est pas tous Monsieur Kwe, et avec la majorité, ça marche pas. la visualisation, parfois ça peut aider.
Oui, ça m'a beaucoup aidé.
Mais ce n'est pas toujours suffisant.
En tout cas, voilà, Bernard, merci de ces questions. Bonne soirée. Nous allons écouter Raymond qui est en ligne. Bonsoir, Raymond.
Bonsoir.
Bonsoir, Raymond.
Bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute.
Oui, moi, ma question, voilà, parce que j'ai eu une histoire avec ma grande sœur, ma demi-sœur, en Afrique.
Oui.
En 1984, j'ai eu des événements très terribles dans ma vie. Et j'avais à peine 14 ans. Ma maman est décédée en août 84. En septembre, mon papa, il décède. Et mon papa, il avait 105 ans. Ma maman, elle avait 42 ans. Et mon papa, il avait une fille. Il avait des enfants qui avaient près de 50 ans passés. Et qu'on appelait maman d'abord. Et c'est notre sœur. Et bien, il y avait une sœur parmi mes sœurs. Il s'appelle Monique, elle était son âme. Ma maman l'aimait beaucoup, 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 beaucoup. C'était la fille adorée de ma maman.
Oui.
Et bien, celle-là, quand ma maman est décédée, on attendait. Elle n'est pas venue. Elle n'est pas venue nous voir pour savoir ce qui s'est passé, nous prendre dans les bras, rien du tout. Quand mon papa est décédé, elle a débarqué avec le grand cercueil, grandiose. Elle a enterré mon papa dignement. Quand c'est fini, elle a pris un grand camion. Elle a tout ramassé dans la maison, des chaises, des cuisinières, les choses, frigidaires, tout ce qui est dans le salon. Elle a tout ramassé. Elle est partie dans la ville où elle habitait. Elle a dit, voilà, c'est bien pour vous. Et nous, on s'asseyait par terre. On n'avait ni chaise ni rien du tout. La maison était complètement vide, désertée. Maman n'est pas là, papa n'est pas là, ni chaise ni rien. En rentrant, elle est partie avec tout ça.
Elle en avait besoin, parce qu'elle avait...
Mais je crois que ça, enfin, là, vous...
Oui, c'était une sœur, une demi-sœur.
Oui. Ouais.
Elle avait dans les cinquantaines d'années.
Alors, donc après, vous pouvez poursuivre un petit peu pour nous dire le bout de l'histoire, parce que, voilà, on comprend que c'est une histoire difficile. Et ouais, est-ce que vous lui avez, vous avez pu lui pardonner ou pas?
Ben, je lui ai pas pardonné, parce que moi, je dis jamais je vais la pardonner jusqu'à la mort. Je devant Dieu, on va se pardonner. Moi, je ne sais pas pardonner des gens comme ça. Elle nous a fait double mal. C'est pas normal. Mais la sœur n'a pas répondu ses torts, elle n'a jamais nous pardonné, rien du tout. Et puis moi, je suis venue en France.
Oui.
J'ai quitté Côte d'Ivoire en 85, je suis venue en France. Elle et moi, on ne s'est jamais parlé. Je retournais en 98, elle m'a vu, elle ne m'a pas parlé. 99, elle m'a vu, elle ne m'a pas parlé. 2001, elle m'a vu aussi, on ne s'est pas parlé. Et ça, 2005, elle m'a téléphoné. Un beau matin, elle m'a dit « Bonjour ». J'ai dit « Bonjour ». Elle a dit « C'est qui ?» Elle a dit « C'est Monique ». J'ai dit « Mais qu'est-ce que tu veux ?» Elle a dit « Non, c'est juste pour te demander pardon ». J'ai dit « Mais pourquoi pardon ?»« Mais tu n'as rien fait. Tu as joué ton rôle de grande sœur, mais qu'est-ce que tu as fait pour demander pardon ?» Elle a dit « Non, 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 parce que j'ai reconnu tout ce que j'ai fait. » J'ai dit ah, « Tu as reconnu tout ce que tu as fait ? Ben, que bon Dieu te pardonne. » Moi, c'est pas à moi qu'il faut demander pardon. Demande pardon à bon Dieu, parce que je ne suis pas bon Dieu. Eh bien, écoute, grande sœur, je te pardonne. Et voilà, c'est bon. Mm-hmm. Elle a dit, d'accord, ok. Il faut oublier tout ça. Il dit, d'accord. Eh bien, 2 mois plus tard, la grande sœur est décédée. Elle avait 73 ans. Eh bien, on m'a annoncé son décès. Je n'arrive pas à pleurer. Je n'arrive pas à pleurer. J'ai cherché tous les moyens pour pleurer, mais je n'arrive pas. Je n'ai pas pleuré. Je ne sais pas comment il faut pleurer. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Les larmes ne coulaient pas.
Vous avez été blessé. Hein, c'est...
J'étais bloqué.
Oui, oui.
Et après, quand on a enterré, un mois plus tard, je suis retourné en arrière, retourné dans le passé, passé. Tout ce qu'elle a fait avec ma maman, qu'est-ce qui s'est passé. Et j'ai commencé à pleurer. elle était déjà enterrée.
Voilà.
Mais... je ne sais pas si c'est le pardon, je l'y ai fait ou je ne sais pas.
Mmh. Voilà. Mais... vous savez, des fois, il faut du temps. C'est pas forcément au moment où on le veut, où on le décide, que ça se fait. Vous avez eu besoin de vous rappeler ce qui s'est passé. Alors, votre histoire, à la fois, elle est dramatique, hein, parce que vos deux parents qui décèdent juste l'un après l'autre, votre sœur qui prend tous les meubles, enfin, voilà. Mais j'ai envie de dire, finalement, quand les parents meurent, il y a beaucoup... souvent des difficultés dans les familles parce que tout le monde est en souffrance, chacun se protège de sa souffrance comme il peut, parfois en agressant les autres, voyez, parfois en venant pas comme votre sœur, et du coup cette souffrance, et puis ça réveille les rivalités d'enfance aussi. Et du coup, oui. c'est très fréquent, malheureusement, hein, qu'au moment des décès d'un parent ou des deux parents, il y ait des difficultés dans les fratries. Voilà, moi, ce que j'entends, ce qui est important, c'est que finalement, vous avez réussi à retrouver de l'amour pour elle, puisque vous avez pleuré, pas à son décès, mais un peu plus tard. Et si le fait qu'elle soit décédée, vous avez pleuré, ça veut dire que vous avez de la peine et donc que vous avez retrouvé l'amour pour elle. Dans ce sens-là, on peut dire que vous lui avez pardonné.
Voilà, Raymonde. En tout cas, merci de ce témoignage, hein. C'est un très beau témoignage de pardon. Merci.
Oui.
Merci, bonne soirée.
Bonne soirée, Raymonde. On va écouter tout de suite Yves Simon, et voilà, le titre c'est Pardonner.
Radio Notre-Dame.
Pardonner les barrières à nourrir, les grands écarts à qui réfléchir. Dites-vous que rien ne s'est prémé. Dites-vous que parfois tout va si vite. Pardonnez. Les virages manqués, les balles perdues, les accidents de rue. Dites-vous que rien ne se prémet. Dites-vous que parfois tout va si vite. Pardonnez. Que parfois tout va si vite. Pardonnez nos offenses, nos déviances, toutes nos errances dans les rues de France. Dites-vous que rien ne se prémet. Dites-vous que parfois tout va si vite. Pardonnez. Que parfois tout va si vite. Pardonnez les failles de la racaille qui vous entaille pour un peu de monde.
tableau, car il ne se prenait du tableau que parfois le monde est vide.
Voilà, c'était Yves Simon, donc pardonner. Nous parlons du pardon et peut-être, là comme le temps avance, voir ensemble ce qui empêche le pardon, Pascal Parinet.
Oui, alors on entend souvent parler de l'orgueil comme un des facteurs qui empêche de pardonner. Alors,
qu'en est-il ?
Ça peut arriver, il y a certaines personnes qui veulent être plus fortes que la personne qui les a blessées, et donc finalement c'est un mécanisme de défense, et je ne veux pas accepter ma vulnérabilité, et surtout pas la montrer à l'autre. Du coup, je vais refuser de pardonner. Enfin,
pour me montrer
plus fort que l'autre,
ah,
en
oui.
quelque sorte. À la fois, en même temps, c'est un peu malsain.
Bah oui, oui.
Mais
c'est dans une situation d'affrontement et.
Voilà, mais oui. on pourrait dire c'est quand même. Dans un mécanisme de défense, c'est-à-dire la personne n'accepte pas sa vulnérabilité et du coup, elle va réagir comme ça en se disant « mais non, je vais être plus fort que lui et je lui pardonnerai pas et je me vengerai » ou je sais pas
quoi. Oui, donc voilà. Ça, c'est de l'orgueil. Non, c'est un mécanisme de défense.
C'est un mécanisme de défense, mais qui rejoint quand même quelque chose, une attitude un peu orgueilleuse.
De vouloir dominer, qui est à un niveau...
Qui est à un niveau plus profond, c'est pas forcément... Alors, même si la personne paraît le choisir et le vouloir, c'est quand même une protection contre son sentiment d'être vulnérable.
Ah oui, d'accord. Hein. Oui.
Mais de toute façon, l'orgueil, c'est toujours une compensation par rapport à une mauvaise image ou à un sentiment d'être fragile, vulnérable.
Et qu'on n'accepte pas.
Qu'on n'accepte pas.
D'accord. Hein. Alors donc l'orgueil où se mêle la blessure, le mécanisme de défense. Hein.
Oui.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Alors il y a l'oubli, on en a parlé tout à l'heure. Voilà, les personnes qui oublient systématiquement ou quand elles sont blessées, ce qu'on leur a fait, ou qui oublient des pans de leur histoire. Voilà, mais pardonner, c'est pas oublier, et c'est même le contraire. C'est se rappeler, être pleinement, vraiment conscient de ce qui s'est passé. Donc c'est le contraire de l'oubli, c'est d'accueillir la réalité pour traverser ce qu'il y a de douloureux dans la réalité, et en faire quelque chose de nouveau. Voilà, il y a un autre mécanisme qui, lui, est beaucoup plus compliqué parce que plus archaïque que l'oubli, c'est le déni.
Alors, qu'est-ce qu'il y a comme différence?
Qui consiste à nier la souffrance, à faire comme si ça n'avait pas existé. Dans l'oubli,
on sait qu'il y a une souffrance,
mais on sait que ça a existé. Là, dans le déni, c'est vraiment... Il y a une coupure avec l'événement avec une partie de soi, même avec la partie qui sait ce qui s'est passé, et par protection. Puis des petits dénis, ça c'est ce que je décrivais, c'est les formes les plus importantes de déni, puis le petit déni, ça va être non, c'est pas grave, ça fait rien.
Oui.
Voilà.
Qu'est-ce qu'il y a encore comme Voilà.
Alors, le pardon intellectuel, quand le pardon... Alors ça arrive quand on pardonne trop vite. C'est-à-dire que...
Ça reste à un niveau...
Ça reste à un niveau intellectuel. Finalement, on a l'illusion qu'on a pardonné. On a pardonné avec sa raison, mais pas avec son cœur. Et pour qu'il soit vraiment véritable, le pardon doit concerner toutes les dimensions de notre être. L'autre blocage, ça serait un pardon par la volonté. On ne peut pas se forcer à pardonner. C'est pas un acte de volonté. Même si vouloir pardonner, ça nous met déjà sur le chemin du pardon. C'est-à-dire qu'on va tendre vers ça, mais ce n'est pas quelque chose qu'on fait par la volonté.
C'est ça, oui.
Le pardon, c'est à la fois donné et reçu. C'est-à-dire que ça nous engage dans un choix de pardonner. Donc, à la fois, c'est nous qui le donnons, mais à la fois, on le reçoit. Parce que ça se fait aussi tout seul à l'intérieur de nous. On est vraiment dans à la fois donné et à la fois reçu. Voilà, autre...
Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme blocage?
L'injustice. Le sentiment d'injustice, c'est souvent un frein au pardon. Voilà, les
personnes... On évoquait tout à l'heure, ça, oui.
Tant qu'on reste dans le refus de l'injustice, on a du mal à pardonner. Et du coup, c'est d'accepter que parfois la vie soit injuste. En tout cas, pour pouvoir pardonner, faut accepter qu'il y ait de l'injustice.
Mm-hmm. D'autres,
voilà, de garder le lien, c'est ce qu'on disait
tout à l'heure.
Voilà. Pour beaucoup, c'est le lien qui est important. Et la personne va préférer un lien douloureux plutôt que pas de lien du tout. Alors, ça peut être pour éviter la solitude, ça peut être la peur du vide que Bernard exprimait. Voilà, mais en tout cas, c'est un moyen. Garder le lien, ça peut être quelque chose qui empêche de pardonner, dans la mesure où la personne a peur qu'en pardonnant, elle perde ce lien. Mais en fait, elle perd pas le lien, elle le transforme. Et elle le transforme dans quelque chose de positif,
mais
normalement.
Oui. Mais il faut donc dépasser aussi cette peur-là.
Voilà.
Et puis
Alors, l'impossibilité de se séparer, ça rejoint un peu garder le lien, mais là, c'est plutôt de défusionner. Quand il y a une impossibilité à défusionner, ça empêche de pardonner, parce que le pardon, ça nécessite de reconnaître l'altérité. Et du coup, ça envoie beaucoup de couple fusionnel ou passionnel qui se déchire.
Et qui ne peuvent pas se séparer.
Voilà, mais qui ne peuvent pas se pardonner non plus.
Se pardonner non plus.
C'est
infernal.
C'est infernal. Ils restent vraiment dans la haine.
Oui, oui.
Parce que la fusion n'arrive pas. Enfin, les personnes n'arrivent pas à se séparer de cette fusion et du coup. Le lien se transforme dans la haine et dans l'impossibilité de pardonner.
Mmh. Et puis encore d'autres choses.
Voilà, le refus de reconnaître son agressivité, parce que finalement, quand on ne veut pas pardonner, ça veut dire qu'on ressent de la colère, et puis les ressentiments, la haine, tout ça, c'est de l'agressivité. Et si la personne reste dans la position c'est l'autre qui m'a fait du mal, tant qu'elle reconnaît pas qu'elle-même dans ce ressentiment il y a sa propre agressivité elle aura du mal à pardonner. Du coup, ça veut dire que pour pardonner, ça nécessite aussi d'accepter que ce l'offense de l'autre a déclenché chez nous de l'agressivité et à accueillir aussi cette agressivité.
Voilà, il y a tout un cheminement. Alors, on arrive presque à la fin en une minute. Il y a les étapes du pardon, évidemment, qui sont en lien avec tout ce que l'on a dit aussi, hein, pour
voilà.
Le cheminement.
Alors,
de psychothérapeutique.
La première étape, c'est de prendre conscience de l'offense. Voilà, qu'est-ce qui nous blesse réellement? Alors, ça paraît évident, mais c'est important parce que souvent la personne va déformer la réalité ou ça peut réveiller d'autres blessures. Donc, c'est qu'est-ce qui me blesse réellement? La conscience de ses émotions, on en a parlé beaucoup. De reconnaître son humanité, c'est-à-dire que on a des limites, on peut être blessé et l'autre peut nous blesser aussi. Prendre l'autre en considération, c'est ce que je disais aussi. Donc de reconnaître les limites de l'autre, son humanité, qui peut être blessé lui aussi. Reconnaître sa responsabilité et choisir de pardonner, c'est ce qu'on disait, l'important n'est pas ce qu'on m'a fait, mais ce que je fais avec ce qu'on m'a fait.
Il y a le pardon à soi-même aussi.
Se pardonner à soi-même quand on se sent coupable de ce qui s'est passé. Lâcher prise. Trouver du sens.
Comme on en a parlé, oui.
Voilà, se réconcilier quand la personne reste proche. Voilà, et puis quand c'est soi-même, par rapport à la faute, on peut se pardonner à soi-même, mais pour la faute, quand on a fait du mal consciemment, il y a le sacrement de réconciliation.
Voilà, c'est pour des choses volontaires. Hein.
Oui.
C'est là où les prêtres disent de ne pas confondre.
La thérapie n'y peut rien. On peut juste dire à la personne, écoutez, assumez ce que vous avez fait. Mais si elle veut être pardonnée, s'adresse à un prêtre.
Un grand, grand merci, Pascal Parini. On voit quand même la différence. Hein, mais beaucoup de choses... C'est important aussi de clarifier tout ce qu'on vit. Je rappelle le téléphone de l'Institut de formation psychrétien 06 60 15 79 60. Les renseignements sont au standard. Merci à Marie-Françoise, Catherine au standard, Guillaume à la technique. Cette émission est disponible sur CD. Demain à 22h, écoute dans la nuit, notre invité sera Gilles Le Cardinal, ingénieur de son métier. Il est aussi chercheur et enseignant en sciences de l'information et de la communication. Il nous parlera des dynamismes de la rencontre, nourris par ses 40 ans de vie à l'Arche de Jean Vanier. Très très bonne nuit à tous, à demain.
Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com.
En ce jour qui s'achève, nous nous tournons vers la Vierge Marie et nous la prions avec les moniales bénédictines de l'abbaye Saint-Michel de Kergonan.